7h42 en temps universel. RFI Matin, tout de suite, c'est le journal des sports. Avec vous, Olivier Pron, on commence par du football avec cette nouvelle compétition, le Mondial des clubs, qui débute ce soir aux États-Unis.
Et allez, une compète de plus dans le football circus. 32 équipes venues de 6 confédérations continentales de la FIFA, ça claque. Hein. 11 villes, 12 stades, vides, hein, ou presque, à travers tout le pays. Ce Mondial des clubs, souvent décrié, surtout en Europe, par rapport aux cadences de match hein, qu'il impose aux joueurs. Ce Mondial des clubs est le nouveau souhait, j'ai mal lu, de Gianni Infantino, tout puissant patron de la FIFA, avide d'argent. Les Saoudiens ont par exemple investi comme ça en passant 1 milliard d'euros dedans. Voilà, il devrait rapporter donc beaucoup de pépettes à certains. 125 millions d'euros aux vainqueurs, par exemple. Et puis il va au moins servir de répétition générale à un an du seul mondial qui tienne, hein, celui des sélections.
Inutile donc de vous demander ce que vous en pensez. Coup d'envoi en tout cas ce soir avec la première des 4 équipes africaines en lice.
Oui, parce que sur le continent, on va suivre assurément, bien sûr, 4 équipes africaines en lice ce soir, pas des moindres, à la plus prestigieuse. Le Al Ahly du Caire, 12 fois champion d'Afrique, opposé à 0 heure temps universel à l'Inter Miami de Lionel Messi. Entreront en lice ensuite l'Espérance Tunis, mardi face au Brésilien de Flamengo. Mercredi, le WAC Casablanca se mesurera à Manchester City. Le même jour, les Mamelodi Sundowns se frotteront au Sud-Coréen d'Ulsan. Et puis dans ce plateau où figure également le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et tant d'autres, on suivra particulièrement les performances des joueurs du continent. Sofiane Amazian en a retenu 5 à suivre particulièrement.
Maintenir la dynamique après la victoire en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain du Marocain Achraf Hakimi fait figure de favori de cette nouvelle compétition. Le prix Marc Vivien Foé 2025 réalise la saison de sa vie, auteur de 9 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il sera l'un des joueurs à suivre assurément. Lui aussi a brillé au niveau statistique. L'attaquant guinéen de Dortmund, Serou Guirassy, co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 réalisations, a fait taire les sceptiques et sera surveillé de très près par les défenses adverses. À surveiller également le Gabonais Denis Bouanga, machine à but depuis son arrivée chez les Los Angeles FC en 2022. C'est d'ailleurs lui qui offre la qualification à son club face à Club América. Passé par la Ligue 1, comme Bouanga, Youssef Belaïli a fait son nid du côté de l'Espérance de Tunis. Connu pour sa carrière plutôt tourmentée, l'ailier algérien de 33 ans démontre l'étendue de son talent. Ces derniers mois, meilleur passeur et deuxième meilleur buteur cette saison en Ligue des Champions africaine. Aussi habile en club qu'en sélection, Ronwen Williams peut nourrir lui des ambitions avec les Mamelodi Sundowns. Nommé pour le trophée Yashin en octobre dernier lors de la cérémonie du Ballon d'Or, le portier des Bafana Bafana devra sortir le grand jeu pour exister dans une poule composée notamment du Borussia Dortmund.
Sofiane Amazian, coup d'envoi de ce Mondial des clubs, donc 0h TU ce soir à l'Arly face à l'Inter Miami. Basket rapidement pour terminer avec la finale de la NBA aux États-Unis avec Oklahoma City qui revient à hauteur d'Indiana. 2 victoires partout après le match 4 la nuit dernière. Succès dans l'Indiana pour le Thunder, 111-104 malgré côté Pacers les 20 points, 5 passes et 8 rebonds du Camerounais Pascal Siakam.
Olivier Pron, merci beaucoup. L'actualité sportive et dans l'actualité également ce matin, bien sûr, on garde un œil sur l'escalade entre l'Iran et Israël dans le prochain journal dans tout juste un quart d'heure. Le point avec Siavosh Ghazi à Téhéran et reportage dans le quartier iranien de Los Angeles. Réaction sur place. Mais tout de suite, ces menaces sur l'information.
RFI Matin.
Cap sur l'Ouzbékistan ce matin, 148e pays sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Dans ce pays d'Asie centrale, sans télé publique, seule une poignée de médias échappe au contrôle du pouvoir et la critique de tout ce qui touche aux autorités est aussi difficile que dangereuse. Exemple ce matin avec l'histoire de Sharifa Madrakhimova, journaliste indépendante, récemment empêchée de quitter le territoire pour recevoir un prix et sous pression, victime d'intimidation depuis des mois. Après avoir enquêté sur le sort des agriculteurs forcés par l'État de planter du coton, Sébastien Farcy.
C'était en février dernier. Sharifa Madrakhimova vient de publier une vidéo en ligne. Elle fait parler un agriculteur pourchassé par les autorités. Celui-ci avait en effet osé planter des fraises dans son champ pour agrémenter ses revenus, alors que le gouvernement lui impose de se concentrer sur le coton, une culture stratégique mais moins rentable. Tout de suite, les menaces arrivent contre Sharifa.
« Namangan, Wallah, J'ai reçu une convocation de la police en charge de la lutte contre le terrorisme. Ils affirmaient qu'un fonctionnaire avait déposé plainte contre moi. C'était suspect car je n'avais jamais rencontré cette personne.
Grâce à un avocat fourni par une association, Sharifa a pu contester cette convocation et éviter une possible arrestation. Mais ce n'était pas la première intimidation. L'année dernière, elle a été attaquée par deux hommes proches du pouvoir. Cette fois, la police n'a pas enquêté. Pour Mida Niyazova, directrice du Forum ouzbek pour les droits de l'homme, les reporters sont des cibles régulières dans le pays.
Les autorités considèrent que les journalistes et les militants qui enquêtent sur les droits des travailleurs menacent la sécurité nationale. C'est pour cela que les policiers en charge de suivre les militants des droits de l'homme appartiennent au service de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.
En Ouzbékistan, l'État contrôle largement la presse et la télévision. La répression des journalistes indépendants s'était toutefois réduite avec l'arrivée d'un nouveau président en 2017, mais elle a repris depuis 3 ans. Surtout pour les reporters qui traitent de cette filière stratégique du coton, comme Sharifa Madrakimova. Et c'est certainement pour cela qu'elle a été empêchée de sortir du pays. En mai dernier, elle devait recevoir un prix de l'ONG internationale Frontline Defenders, mais son passeport lui a été livré endommagé et donc inutilisable. Ces menaces n'entament cependant pas le courage de cette journaliste.
Quelqu'un doit diffuser les voix des personnes qui souffrent. Si tout le monde a peur de le faire, nous perdons le combat. Je le fais car on ne peut pas m'obliger à me taire. Et maintenant, je ne peux plus reculer. Ce prix a attiré l'attention sur moi. Quand il a été annoncé, j'ai constaté que j'étais surveillée par les autorités. Mais en général, je pense que cette attention internationale peut me protéger.
Lors de la remise de ce prix à Dublin fin mai, sa voix a bien été entendue. Sharifa avait enregistré un message vidéo qui a été diffusé sur grand écran lors de la cérémonie.
Menace sur l'information ciné, Sébastien Farcy. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquelle-Rohen.
Sous prétexte qu'il aurait échoué sur tous les plans, Fornia Singbé a été ce jeudi sommé de démissionner par l'opposition et la société civile. Cette injonction a-t-elle quelque chance d'être entendue par le dirigeant togolais?
Ce serait un miracle, mais comment reprocher à un peuple qui ne croit plus au pouvoir du bulletin de vote d'espérer un signe du ciel? De la possibilité de conduire Fornia Singbé par les urnes, les Togolais depuis longtemps ont fait leur deuil. Il ne sait pas perdre. Après tout, la réforme constitutionnelle contre laquelle protestaient les jeunes arrêtés la semaine dernière visait à perpétuer son bail aux commandes du Togo en s'épargnant les accusations de mandat sans nombre. Ce serait véritablement un miracle si, après toutes ces contorsions, il démissionnait à la suite d'une simple injonction d'opposant. Tout comme il serait illusoire d'espérer le voir abandonné par fierté à cause de l'allusion faite à son bilan peu glorieux. Manque de légitimité, carence de la gouvernance, échec sur le plan économique, incapacité à offrir un modèle exemplaire aux jeunes générations. Le tableau dépeint par le professeur David Dosset pour exiger sa démission est accablant. S'accrocher au pouvoir avec un tel bilan, corroboré en plus par certains membres de son propre camp, relève des motivations impénétrables. Il faut du courage, beaucoup de courage, pour renoncer au pouvoir.
Peut-être croit-il que les opposants sont juste de mauvaise foi et que ses anciens partisans sont aigris.
Au-delà des opposants et des déçus de son propre camp, Fornia Singbé a un problème plus grave qui est sous les yeux de tous, les performances plutôt étincelantes des pays voisins. Oublions le Burkina qui a ses problèmes. En plus d'être un pays enclavé, tributaire des États côtiers pour ses exportations et ses importations. À l'est, le Bénin, sur qui le Togo avait dans les années 70 et 80 une avance certaine accrue par les ravages de la révolution marxiste sous Mathieu Kérékou. Même les lycéens et collégiens béninois préféraient à l'époque aller terminer leurs études secondaires au Togo ou même plus loin. Après la conférence nationale de 1990, le pays s'est relevé progressivement. Mais ces 9 dernières années, le Bénin s'est construit avec méthode, dans une modernité qui s'étend à tout le territoire national, pas seulement à Cotonou et Porto-Novo. D'aucuns évaluent aujourd'hui à un bon quart de siècle le retard qu'accuse le Togo par rapport au Bénin, qui a lui aussi ses problèmes politiques. Mais même ses plus féroces détracteurs reconnaissent à Patrice Talon d'œuvrer au mieux-être du Bénin et des Béninois. Rien à voir avec ce qu'une ancienne ministre des armées, membre du clan au pouvoir à Lomé, qualifie de petit projet aux objectifs inavouables, vanté par une propagande dont l'unique finalité est la conservation du pouvoir.
Et Jean-Baptiste, à l'ouest du Togo, le Ghana, on l'a souvent dit ici, rayonne plutôt, est-ce bien le cas ?
Plus que jamais. Un diplomate angolais devenu ensuite ministre raconte que dans les années 80, en poste à Accra, ils allaient en fin de semaine faire leurs courses et se détendre à Lomé. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont besoin de détente, les Togolais qui en ont les moyens vont en villégiature au Ghana, qui a lui aussi ses problèmes, mais avance de manière irréversible. On pourrait même poursuivre le voyage un peu plus loin, à l'ouest du Ghana, avec la Côte d'Ivoire qui continue de se construire et d'impressionner. Il se trouve que les Togolais visitent ces États voisins et n'ont donc nullement besoin de mauvaise foi pour constater que leur Togo, dans ce voisinage, est d'une anormalité d'autant plus triste que Faure Gnassingbé, arrivé au pouvoir à moins de 40 ans, aurait dû brûler plus que tous d'envie de très bien faire. S'accrocher au pouvoir n'est tolérable que si on s'applique au moins à faire le bonheur de son peuple. Mais toute boulimie de longévité au pouvoir qui se nourrit du mépris de ceux dont on accapare ainsi le destin est, au regard de l'histoire, doublement coupable.
Merci Jean-Baptiste Placard.
RFI Matin.
Que nous évoquent les mots? Comment résonnent-ils en nous? Avant de nous dire au revoir chaque samedi, des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher, à Lucie Bouteloup sur RFI. C'est un mot, une histoire.
C'est là où se porte le regard. Et le regard peut être le regard physique ou le regard mental et intellectuel.
Et c'est la première femme à avoir accompli le tour du monde à la voile en solitaire. Quand elle n'est pas en mer, Isabelle Autissier écrit. Elle vient d'ailleurs de publier son 5e roman. Et puis aussi, elle milite pour la préservation de la nature et des océans, bien sûr. Et au lendemain de la conférence de l'ONU sur les océans qui se tenait à Nice cette semaine, elle a choisi de nous parler d'un mot porteur d'espoir et de rêve.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Alors j'ai envie de vous parler du mot « horizon ». Parce que l'horizon, c'est l'univers des possibles. C'est tout ce qu'on voit pas et qu'on imagine. On est assis sur la plage, on regarde la mer, on voit l'horizon et on se dit tout de suite qu'est-ce qu'il y a derrière. Et le qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est un peu le propre de l'homme quand même. C'est ce qui fait partir les marins, mais c'est ce qui fait partir l'imaginaire aussi. C'est ce que tous les explorateurs, c'est ce que tous les humains, parce que là, je parle d'un horizon physique, mais il y a l'horizon des sciences, il y a l'horizon de la pensée, l'horizon, ça se décline. Et puis, il y a un deuxième sens important pour moi du mot horizon, c'est la ligne qu'on se trace pour aller quelque part. On dit « mon horizon, c'est ça », c'est-à-dire « je suis en chemin pour telle ou telle chose ».
Avoir de nouveaux horizons, c'est ce qui guide votre parcours ?
Moi, j'ai effectivement fait beaucoup de choses différentes dans ma vie parce que l'horizon est très proche pour moi de la curiosité. J'ai d'abord eu un horizon de scientifique que j'ai exercé. J'ai eu un horizon de course au large. Aujourd'hui, je peux avoir une horizon d'autrice et de militante engagée sur les questions environnementales. Voilà, à chaque fois, il y a des points de fixation, il y a une ligne directrice. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, peut-être justement dans une période où on a un peu du mal à savoir où on va, de se tracer un horizon, qui peut être un horizon personnel, qui peut être un horizon collectif, sur, par exemple, l'exploitation de la mer et des choses de la mer, parce que de manière très utilitaire, c'est notre intérêt, mais aussi parce que, bien sûr, ces êtres vivants ont autant de droits que nous d'être sur cette planète.
Et justement, vers quel horizon il faudrait tendre ? Pour les océans.
Alors, pour l'instant, l'horizon des océans est assez bouché. Les océans vont mal. Ils vont mal chimiquement, ils vont mal en termes de température, ils vont mal en termes de nature et de vie. L'horizon, ce serait d'essayer de garder les équilibres océaniques, donc de limiter les gaz à effet de serre qui sont extrêmement nocifs, et puis de garder la vie dans les océans. La moitié de notre respiration, aujourd'hui, elle vient du plancton marin, et on a absolument besoin de la vie océanique. Donc l'horizon, aujourd'hui, pour les océans, c'est d'essayer de conserver ou de restaurer, parce que quand on fait des vraies aires marines protégées, vraiment protégées, avec des vraies législations, ça marche. Mais si on fait juste des rectangles de papier, ça marche pas.
Selon le dictionnaire de l'Académie française, l'horizon est la ligne circulaire qui apparaît à un observateur qui en est le centre et où le ciel et la terre semblent se joindre, le ciel et la mer se confondre.
C'était un mot, une histoire.
Une chronique avec le soutien de la Délégation générale à la langue française.
Et Isabelle Autissier qui vient de publier un nouveau livre intitulé « La fille du grand hiver ». Bientôt 8h en temps universel, comme chaque matin, on se quitte en musique avec le français guyanais Jayanai et son titre « From Zion » issu de la bande originale du film « Zion ».
Yeah. We come from Zion. You know me. A pussy no red dog, we from Zion. Bad man plays to get at Lion. West Indies, the Kingston, a Kayan. Man a bad man plays, bad man plays, bad man. Don't know, so we. A gun, them a violate, they don't know we. Squeeze it up, in a them place, them. Road king, everywhere me done, then. We no fear them, trust me. When him other place, then don't know. Yeah, yeah. Bad man plays, bad man. Like Guyana's auntie, that is it. Shock Simon Gerun, crying, watch it there. I'm a drink champion, where we dead? John with collage, you know, money off him make. And now the thing set, half he make. No get come behind the long cabin in the last city. Half a tooth moon, I your key body day. We come from Zion.
From Zion de Jayanai et du compositeur Chaz pour refermer cette édition d'RFI Matin. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures. Remerciements tout particuliers aussi à Sigrid Azeroual, Michael Ponge et François Ballarin pour la programmation et la rédaction en chef de nos éditions spéciales de ce matin. Vous continuez de suivre l'escalade entre l'Iran et Israël dès notre prochaine édition dans une minute sur notre live en ligne RFI.fr et dans RFI Midi à midi 10 temps universel. Notre invité sera l'ambassadeur israélien en France. Très bonne journée.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Vidia Mistral, c'est le grand partenariat annoncé cette semaine lors de l'événement VivaTech à Paris. Un investissement en milliards de dollars du géant de l'IA américain. Quelles conséquences pour ce secteur stratégique? Quelles implications pour les Européens et pour le reste du monde?
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Ce dimanche, nous recevons Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. Il nous parle des chrétiens d'Orient et des guerres en cours. Nous ne soutenons pas un confessionnalisme qui serait replié sur lui-même, insiste-t-il. Lui qui a travaillé à bâtir des ponts et au vivre ensemble, apaisé malgré les fortes tensions régionales.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.